dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, il y a une parole que vraiment plusieurs ont besoin de réentendre, ce soit peut-être moi le premier, mais Dieu sait ce que nous avons besoin d'entendre, de réentendre. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante. Et lorsque quelqu'un est embrasé de cette vie de l'esprit, il ne veut pas être blasé parce qu'il réentendrait même la prédication 10 fois de suite. Si c'est l'Esprit de Dieu qui parle, Dieu a une parole pour vous. Dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1er, il est dit ceci. Jacques, chapitre 1er, verset 16. Car nous pouvons, hélas, bien des fois nous tromper. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Vous le croyez ? Toute grâce. Ce soir, avez-vous besoin d'une grâce ? Dans votre foyer, dans votre maison, dans votre travail. Toute grâce. Toute grâce, dans quelque domaine que ce soit, vient de Dieu. Et si nous nous approchons de Dieu correctement, si nous nous approchons de Dieu le cœur ouvert, il ne va pas sans dire que nous aurons cette bénédiction. Un petit peu avant, au verset 5, où il nous est parlé des épreuves, les diverses épreuves que nous pouvons traverser, il est quand même dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce soir, je ne sais pas ce qui nous manque. Peut-être que nous ne le savons pas nous-mêmes. Est-ce que nous savons ce dont nous avons besoin? Est-ce que nous savons ce que Dieu veut nous donner? Peut-être que Dieu veut vous donner quelque chose que vous ne réalisez pas. Peut-être que vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit pour être vraiment ce témoin, mais que vous ne le demandez pas. Peut-être que vous demandez une chose. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et je suis convaincu que dans un moment comme celui-ci, le Seigneur peut nous éclairer. Et si c'est notre devoir de prier pour quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin d'un travail ou qui a besoin de restauration parce que son mari est en difficulté, vous avez aussi tous le droit de dire « Moi, j'ai besoin ce soir de retrouver cette ferveur. Je veux retrouver ce que je n'ai pas eu encore, ce qu'il me manque. » Peut-être que le Seigneur ce soir, peut-être, certainement, que Dieu veut vous bénir, vous délivrer, vous guérir. Et c'est ce que nous allons partager ensemble. Je voudrais lire un autre texte dans Romains au chapitre 14 et au verset 17, il nous est expliqué ce qu'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? J'ai lu dernièrement un livre qu'on m'a conseillé, rempli de bêtises, où il était expliqué qu'il fallait manger ceci, fallait manger davantage de viande rouge pour être plus fervent, des trucs dans des livres chrétiens. Des imbécilités, parce que ça on peut le dire, qui n'ont rien à voir avec la piété. En plus que c'est écrit, si les gens lisaient la Bible, ils n'iraient pas des bêtises pareilles. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. La paix et la joie sont le fruit de l'Esprit. Il y a des victoires. Ce soir, nous ne pouvons pas penser autrement que Dieu est un Dieu de victoire. Il y a une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On doit l'obtenir. C'est pour ça que j'ai pris ce texte, si quelqu'un manque. Peut-être que vous manquez de certaines choses, vous le demandez aux autres, peut-être. Alors, aux autres, on peut leur demander de prier. On peut demander aux autres certaines choses. Mais il y a des choses, elles doivent venir de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Ça paraît être un pléonasme. On a l'impression que l'apôtre Jacques a écrit un pléonasme. C'est volontaire que nous comprenions bien que ça descend d'en haut vers le bas et que c'est Dieu qui veut bénir ce soir chacun de ses enfants. Mais justement, comme disait Jérémie dans les chants, on peut avoir obtenu certaines choses et nous en être éloignés. On peut avoir perdu certaines choses. Est-ce que le diable n'est pas un voleur? Oui. Alors comment l'obtenir? La réobtenir? Comment la recevoir? Comment la garder, cette bénédiction? Vous savez, il faut que nous sachions que Satan fera tout. Tout ce qui est dans son pouvoir pour nous maintenir dans la défaite, pour nous maintenir dans le découragement, pour nous maintenir éloignés de Dieu, tout simplement. Que nos regards soient un petit peu perdus dans ce brouillard. Satan, il fera tout pour que notre esprit soit embrouillé, pour que nos pensées ne soient pas claires, etc. Il s'en fiche qu'on aille à l'église. Il y a des gens qui s'imaginent que Satan est contre qu'on aille à l'église ou qu'on lise la Bible. Mais Satan, il n'en a rien à faire. Qu'on aille à l'église ou qu'on lise la Bible ou qu'on serve Dieu même bêtement, routinièrement. Tout ça, ça lui est égal. Ce que le diable veut, c'est nous empêcher d'avoir une vie de victoire. Nous empêcher d'être dans le triomphe, d'être dans la ferveur. Nous empêcher d'obéir, nous empêcher de retrouver sa présence. Parce que c'est une chose d'aller à l'église. Ça n'est une autre d'être dans sa présence. De vivre dans sa présence, d'avoir une foi superficielle et d'avoir une foi vivante. Alors, cette expérience, elle doit être renouvelée. Vous connaissez tous ce verset où Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de celui qui croit en moi, de celui qui obéit. Parce qu'à quoi ça servirait de croire si on n'obéit pas? Parce que quelqu'un qui vient à Jésus, c'est pour le regarder juste ou c'est pour lui obéir? Donc, ce verset a été très très mal expliqué parfois. Si Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, ça va de soi que celui qui va venir à Jésus va se mettre à lui obéir et à le suivre. Et donc, il va obtenir ses fleuves d'eau vive. Parce que tout est un don, toute grâce excellente, tout don parfait. La vie physique, est-ce que ce n'est pas un don? Est-ce qu'on aurait pu mourir dans le sein de notre mère? Est-ce qu'on aurait pu mourir à la naissance? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mourir? Bien sûr que si. Tout est un don. La vie spirituelle est un don. Le salut, est-ce que c'est un don, le salut? Est-ce que ce n'est pas un don d'être sauvé? Pourquoi on est sauvé, nous, là, Toulousains? Pourquoi les autres à côté sont perdus? Vous pouvez l'expliquer? Eh bien, parce que c'est un don. Le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est un don. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Toute expérience, en vérité, c'est une grâce, c'est un don que le Seigneur nous accorde. Et, mais il faut savoir avancer dans cette grâce, il faut savoir avancer dans cette bénédiction. Et est-ce que nous n'aurions pas besoin d'avancer davantage dans cette bénédiction? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie spirituelle? C'est une question que l'on peut poser. Êtes-vous satisfait de votre vie spirituelle? Ou est-ce que vous en voulez davantage? Moi, je ne suis pas satisfait de ma vie spirituelle. Moi, je voudrais davantage. Je voudrais être davantage utile, davantage rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on va recroqueviller sur ce verset que j'utilise parfois? Contentez-vous de ce que vous avez. Mais moi, je me contente de ce que j'ai. Mais ça, c'est au niveau matériel. Au niveau matériel, il faut se contenter de ce que l'on a. C'est bien. Mais au niveau spirituel, on ne peut pas se contenter de ce que l'on a. C'est bien le contentement. La Bible dit que c'est une source de gain, que la piété et le contentement. Et qu'on apprend, ça s'apprend. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est Paul qui le dit. Est-ce que vous apprenez à le contentement? Ça s'apprend, dire ce soir, oui, j'ai ça, j'aimerais avoir davantage, mais non, je me contente de ce que j'ai. J'ai appris, dit l'apôtre Paul, à être content dans l'état où je me trouve. Mais spirituellement, je suis convaincu que Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Vous connaissez l'expérience d'Ézéchiel 47. Vous connaissez cette expérience où Ézéchiel est amené devant un fleuve et là, il a de l'eau, il marche et il a de l'eau jusqu'aux chevilles, vous comprenez? Vous connaissez cette affaire? C'est une affaire merveilleuse. Et il va passer des chevilles à un torrent qu'il ne peut pas traverser, qui représente les fleuves d'eau vive dont je viens d'évoquer dans Jean 7, 37. Où en sommes-nous? Avons-nous de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire le minimum? Le minimum. Je vis dans la grâce de Dieu. Voilà, ça me convient. On peut se contenter. Il y a des gens dans l'eau l'été. Moi, cet été, des fois, j'étais à la mer. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Tu veux pas l'eau? Moi, ça me suffit. Il faut dire qu'elle n'était pas très chaude. Bon, mais vous avez compris. On peut se contenter. On peut se contenter. C'est bien. C'est déjà bien. Ça rafraîchit. C'est pas vrai? Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'aller au bord de la mer, de mettre juste les pieds dans l'eau? Hein? Bon, ça suffit. Parce que dans notre tête à nous, on se dit, ça suffit. Mais spirituellement, est-ce que vous croyez que ça tienne debout, cette affaire de dire, bon, c'est bien, je suis là dans la grâce de Dieu, le Seigneur m'a béni, il m'a sauvé, je suis un de ses enfants, Dieu est mon Père, voilà, le minimum. Est-ce qu'on peut dire, mais il me manque quelque chose? Il me manque cette vie de l'esprit? Je pense que Dieu peut donner davantage. Je pense que Dieu a de meilleures choses pour moi. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ces 20 dernières années, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait ces dernières années dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu a fait ces 10 dernières années? Ces 20 dernières années, est-ce que Dieu vous a formé? Est-ce que Dieu vous a travaillé? J'espère que oui. Mais est-ce que vous ne croyez pas que Dieu veut nous donner davantage vraiment? Davantage. Est-ce que je ne suis pas resté dans la routine, le train-train, dire oui, je suis sauvé, je suis béni, voilà, j'ai mon église, j'ai ma Bible, j'ai mon foyer, j'ai ma maison, j'ai mon travail. Merci Seigneur, surtout garde-moi dans cette espèce de contentement. Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Ne répondez pas haute voix, ne levez pas la main, mais répondez au Seigneur. Qui veut aller plus loin ce soir dans son cœur? Qui dit, Seigneur, non, je veux pas rester aux chevilles. Je veux pas rester aux chevilles qui représentent le minimum de la marche au minimum. Je veux déjà aller beaucoup plus loin. Ce soir, je veux aller jusqu'aux genoux. Je veux avoir cette vie intime avec Dieu. Les genoux, ça représente la prière, vous le comprenez. Cette vie où déjà on est davantage porté. Je veux avoir une véritable communion avec le Seigneur. Je marche avec toi, mais je voudrais davantage une communion vivante. Je veux aller beaucoup plus loin. Vous avez vu comment Élisée a obtenu le manteau d'Élie, comment il a dû persévérer, alors que tout le pressait, reste là, reste ici, je te prie. Mais lui disait, non, je veux davantage. Et il a payé le prix. Est-ce que ça valait la peine? Eh bien oui, ça valait la peine. Et pourtant, tout le monde le dissuadait. Mais non. Écoutez, mes frères et sœurs, tout sera fait. Tout, absolument tout sera fait pour vous dire, mais c'est bon, contente-toi, c'est bien, c'est déjà bien, regarde les autres, c'est pire. Oui, parce que ce qu'il y en a un qui est fort pour vous décourager. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais moi, je crois que ce soir, le Seigneur veut nous montrer que s'il nous manque quelque chose, il faut le prendre. Ézéchiel a su avancer jusqu'à vivre une expérience extraordinaire. Moi, j'aimerais que l'église de Toulouse, je ne parle pas Sainte-Anne, mais l'église de Toulouse puisse vivre quelque chose qui amènera vraiment la bénédiction sur la ville. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ou est-ce que juste le minimum, c'est que les chrétiens de Toulouse aient de l'eau jusqu'aux chevilles, les autres, ils sont dans la sécheresse, c'est leur problème, ils n'avaient qu'à se convertir? Ou est-ce que c'est comme ça qu'il faut parler? Ou est-ce qu'on peut pas dire... Parce qu'un fleuve, vous avez vu les infos, dès qu'il y a 1,50 m d'eau dans une ville, même pas 1 mètre, les journalistes y sont, que se passerait-il dans une ville si spirituellement l'eau passait même déjà de 10 cm à 1 mètre? Vous ne croyez pas? Et ce n'est pas une question d'intéresser les autres, c'est une question de faire vraiment la volonté de Dieu. Oui, il y a des fleuves d'eau vive. Jésus est catégorique, il y a des fleuves d'eau vive, ce n'est pas des fleuves matériels. À Jérusalem, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de rivière à Jérusalem. Vous avez vu comment c'est un caillou. Mais c'est bien la preuve qu'il y a des fleuves spirituels et que vous et moi, nous ne devons pas prendre le risque de nous contenter de quelques millimètres d'eau ou centimètres d'eau, mais nous devons demander. Si quelqu'un manque, qu'il le demande. Qu'il le demande. Je voudrais partager avec vous juste quelques exemples. Vous connaissez Naaman? Naaman, oui, le fameux général de l'armée. Il lui manquait quelque chose. Il avait besoin d'une guérison, tout général, tout célèbre qu'il était. Il avait sur son corps un début de lèpre. Et il avait besoin de guérison. Peut-être que quelqu'un ce soir a besoin d'une guérison. Une guérison physique, mais une guérison spirituelle. J'ai peut-être besoin d'être guéri de ma timidité, guéri de ma crainte. Est-ce que Dieu est un Dieu de guérison? Guéri de mon passé. Il y a des gens qui vivent dans le passé, qui ont peur du passé. Et je crois que ce soir, il faut faire un acte de foi et dire, Seigneur, je veux te demander la guérison. J'ai besoin d'une guérison. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Naaman? Parce que Dieu est souverain. Vous vous rappelez ce que Dieu avait demandé à Naaman? Dieu avait demandé à Naaman, c'est sûr que c'était quelqu'un, c'était la personne la plus importante du pays, après le roi de Syrie. C'était la personne qui, comme vous voyez sur son histoire, et il va voir le prophète, c'est même pas le prophète qui va le voir, c'est son serviteur, et il lui dit, écoute, tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain. Il s'est mis en colère et tout. Et puis il y a un de ses serviteurs qui a dit, mais écoute, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il dit, si, alors fais-le. Ah bon, heureusement que Dieu permet parfois que nous soyons entourés de gens qui ont du bon sens. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir du bon sens par rapport à ce que Dieu nous demande. Et c'est sûr qu'il va dans le Jourdain, alors lui commence à s'énerver, mais qu'est-ce que c'est ça? Dans le Jourdain, mais les fleuves, le Parpar et l'Arba de Syrie sont plus beaux que le Jourdain. Mes frères et sœurs, si Dieu nous disait, si quelqu'un nous disait, écoute, tu es malade, écoute, je sais comment tu vas être guéri, mais tu fais Toulouse-Paris à pied, tu seras guéri. Est-ce qu'il n'y en a pas qui le ferait? Et s'il n'y en a pas qui le ferait, voilà, tu fais Toulouse-Paris à pied, et tu seras guéri. Je suis sûr qu'il y en a plein qui le feraient. On demande des choses compliquées, les gens le feraient. Là, Dieu nous demande une chose, de nous plonger le nombre de fois qu'il faut dans sa parole jusqu'à ce que l'on soit guéri. Car je crois que Dieu guérit. Et que peut-être, pour être guéri, il y a besoin de nous plonger dans sa parole. Vous ne croyez pas? Parce qu'il y a des choses que Dieu veut vous montrer. C'est facile de voir la paille dans l'œil de son frère. Est-ce que ce n'est pas facile? C'est facile de dire, tiens, cette sœur, ce frère, celui-ci, il y a ceci, tiens, celui-là, il est avare, mais peut-être que moi, je suis plus avare que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est facile et c'est possible de voir le petit défaut dans la vie de quelqu'un, mais de ne pas voir la poutre qui est dans son propre œil. C'est pour ça que si Dieu nous dit, mais plonge-toi cette fois, cet homme a été guéri. Et combien de fois nous plongeons-nous dans la parole de Dieu? Combien de fois? Combien de fois nous plongeons-nous dans la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait cette bénédiction? Parce que si c'était plongé que six fois, est-ce qu'il aurait été béni? C'est sûr que c'était pathétique. Ce grand homme, ce général de l'armée, qui s'enfonçait chaque coup, il devait ressortir tout mouillé, ça devait être pathétique. Ses serviteurs, ils devaient le regarder, je ne sais pas si ça sourit en coin, je ne sais rien. Mais il l'a fait. Quand Dieu nous demande quelque chose, faisons-le. On a chanté, parle-moi, montre-moi, car je veux t'obéir. Vous l'avez chanté? Vous l'avez chanté comment? Est-ce que vous l'avez vraiment pensé? Est-ce que c'était vrai cette affaire? Est-ce que c'est qu'un beau cantique avec de bons musiciens et c'est vrai? Ou est-ce que c'est une vérité? Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Et je veux réapprendre à m'humilier. Parce que c'est exactement ce que Dieu voulait apprendre à Naaman, tout général qu'il était. Il voulait lui apprendre à s'humilier. Je m'humilie. Eh bien, je vais me plonger dans la parole le nombre de fois qu'il faudra, Seigneur. C'est ce que tu me dis ce soir. Je t'avais prié pour que tu me parles. Moi, je me contente de me plonger une fois parce que je fais mon culte. Eh bien, peut-être que Dieu vous dit, mais plonge-toi plusieurs fois, chaque jour, dans sa parole. Est-ce que ça peut venir du Seigneur? Réapprendre à s'humilier. Mes frères et sœurs, c'est peut-être comme ça que vous obtiendrez la guérison. Est-ce que ça vaut la peine, pendant quelques jours, de dire, eh bien, c'est ce que je vais faire. Il y a des gens qui sont capables, 2, 3 fois, 4 fois par jour, de regarder les infos, parce qu'ils ont soif des infos. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, est-ce que c'est pas cohérent d'entendre Dieu nous dire, mais plonge-toi plus souvent dans ma parole, et je te bénirai. Et cet homme, vous savez comment ça s'est passé? Il a été guéri. Réapprendre l'humilité, réapprendre la simplicité. Bartimée, vous connaissez cet homme, aveugle, qui a dû beaucoup galérer pour trouver le chemin du Seigneur, pour arriver dans ce fleuve de guérison, car je crois que être guéri, c'est véritablement être plongé dans un fleuve. Vous avez vu la quantité de difficultés qu'il a rencontrées, car moi je crois qu'il y a des difficultés pour faire ce que Dieu nous demande. Ça paraît simple parfois, mais moi je crois qu'il faut être sérieux. La dureté des autres, est-ce qu'il n'y a pas des gens durs autour de nous? Oui, il y en a, hein? Cet homme, en plus, il était aveugle et en plus, il était mendiant. Et il fallait qu'il se passe quelque chose entre lui et Jésus. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Il faut qu'il se passe quelque chose entre nous et le Seigneur Jésus. Et quand il a entendu que Jésus passait, il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier, Jésus, aie pitié de moi. C'est dans Marc au chapitre 10 pour ceux qui veulent l'histoire. Et ceux qui étaient à côté de lui lui ordonnaient de se taire. Vous savez, il y a des gens qui, autour de vous, vous ordonneront, c'est peut-être pas le mot, mais vous pousseront à vous taire. Il y a non seulement le diable, mais il y a des gens qui disent, non, ne prie pas, ça sert à rien, t'as prié une fois, c'est pas la peine, le Seigneur il entend. Moi je crois qu'il y a des situations où prier une fois ça suffit. Mais même le Seigneur Jésus a prié plusieurs fois dans le jardin de Gethsémané, parce que le combat qu'il y avait nécessitait qu'il prie plusieurs fois. Et il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, où il est stipulé que quand il y a un problème, si vous avez la foi, vous priez qu'une fois. Si vous priez plusieurs fois, c'est que vous n'avez pas la foi. Moi, je suis désolé, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique du tout, mais du tout. Il faut persévérer dans la prière. Il y a des combats terribles. Et des fois, il faut prier qu'une fois, oui, c'est vrai. Mais des fois, il faut prier des jours entiers, il faut prier des semaines entières pour arriver à avoir la bénédiction. La foule le reprenait pour le faire taire. Vous savez, n'écoutez pas les gens qui veulent vous faire taire. Lorsque le Saint-Esprit vous pousse à prier, à crier, ne criez pas à haute voix. Parce que, oh, mais il y a des églises où c'est enseigné ça, où on dit que la foi c'est crier parce que Jésus a dit « ceux qui crient jour et nuit ». Mais ça veut dire que le doute est bien sûr plus fort que la foi doit être plus forte que le doute. C'est ça que ça veut dire. Mais l'ennemi fera tout. Ne nous leurrons pas pour empêcher une église de persévérer dans la prière, pour empêcher une église de retrouver cette simplicité dont je viens d'évoquer par rapport à Naaman, cette humilité, cette persévérance. Jésus a entendu l'appel de cet homme et il s'est arrêté. Qui a envie que Jésus s'arrête dans sa vie? Parce que c'est quand même une drôle d'affaire, ça. Que le Seigneur Jésus s'arrête dans votre vie. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Si je demandais au maire de Toulouse, déjà, ce serait même pas possible. Mais c'est qu'un homme. Mais qui croit que Jésus peut s'arrêter dans sa vie? Qui croit vraiment que vous allez prendre une victoire parce que c'est une victoire à prendre? Il y a des gens, j'ai pas le temps. Alors ça paraît très bien, mais je crois que c'est pas sérieux. Mes frères et sœurs, Bartimée, il était aveugle. Ça représente les chrétiens qui ne voient pas toutes les bénédictions que Dieu veut leur donner. Combien ont abandonné cette foi vivante? Combien se contentent de religiosité? Combien vont à l'église que le dimanche matin? Je ne veux pas dire que les gens qui vont à l'église que le dimanche matin ne sont pas spirituels. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'il y a des gens qui ont une foi qui n'est plus vivante. Une foi vivante. Seigneur, réapprends-moi à m'approcher de toi, à crier vers toi, jusqu'à ce que tu t'arrêtes et qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux. C'est peut-être ce que certains ont besoin de réapprendre ce soir. Réapprends-moi, non pas l'humilité comme Naaman en avait besoin, mais réapprends-moi à crier vers toi. La Syrophénicienne, quand elle a rencontré le Seigneur, bon, c'était quand même un problème difficile. Sa fille était possédée par le démon. Vous vous rappelez cette histoire? Et vous connaissez ce qu'elle a dû rencontrer, l'indifférence du Seigneur, la dureté des apôtres, la parole de Jésus qui n'était pas facile à comprendre, hein, qui frisait l'insulte, toutes ces choses. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prosterne encore plus devant le Seigneur. Elle lui dit, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus va lui dire une parole, je ne sais pas si elle a tout compris, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter, de le donner aux petits chiens. Enfin, c'est des paroles, est-ce que vous comprenez tout ça, vous? Est-ce que quand on lit la Bible, est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible, j'y comprends rien. Il y a des multitudes de gens qui sont en enfer parce qu'ils ont eu ce réflexe complètement stupide. Ils ont ouvert la Bible, j'y comprends rien, ils ne l'ont plus jamais rouverte. Ils l'ont payé cher. Cette femme, elle n'a pas tout compris parce que c'était quand même compliqué cette affaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prosterne aux pieds du Seigneur. Et je crois qu'elle, elle n'a pas dû le regretter. Réapprendre à persévérer. Cette femme, elle va persévérer. Elle représente les chrétiens qui persévèrent. Il y a des chrétiens qui doivent réapprendre l'humilité. Il y a des chrétiens qui doivent réapprendre la simplicité. Il y a des chrétiens qui doivent réapprendre à crier à Dieu. Il y a des chrétiens qui doivent réapprendre à persévérer. Jésus va l'éprouver. Parce que quand même, le Seigneur Jésus, c'est pas trop son habitude, mais c'était la première fois qu'il était un petit peu dur avec une femme. Vous êtes vous d'accord ou non? Et pourtant, elle va obtenir la délivrance. Et c'est le problème peut-être de plusieurs, de réapprendre à persévérer. Il y a des chrétiens, ils ne persévèrent pas. Ils persévèrent un jour, deux jours, deux mois, trois mois, et puis ils s'arrêtent. Oh, j'ai pas été exaucé, j'ai pas été béni. Mais c'est comme ça que Dieu vous marchez avec Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ce soir qui dit, Seigneur, oui, je crois que ta grâce, elle descend d'en haut. Je manque de persévérance. C'était son problème. Et Dieu a mis cette histoire dans la Bible, non pas pour qu'on connaisse cette histoire, mais que nous comprenions que les chrétiens, que les pasteurs, que les églises doivent persévérer. Le Seigneur, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qui a besoin de réapprendre à persévérer? À persévérer jusqu'au bout. À persévérer jusqu'au bout. Pas question de persévérer un mois, deux mois, trois mois. On voit dans la Bible des rois qui ont marché longtemps avec Dieu, et puis les dernières années de leur vie, ils ont mal fini. Vous avez remarqué l'histoire des rois, l'histoire des rois, c'est une histoire qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai compris que c'était l'histoire de notre vie. Il y a des gens qui ont bien commencé et bien fini. Il y a des gens qui ont mal commencé et mal fini. Enfin, il y a tous les cas de figure. Et il y a des rois qui ont marché 30 ans, 40 ans. Et puis, paf, la dernière année, les deux dernières années de leur vie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont tout abandonné. Eh bien, vous voyez, si quelqu'un manque de persévérance, demandez-la à Dieu. Seigneur, donne-moi de me réapprendre à persévérer. Donne-moi de remettre mon réveil le matin pour que je réapprenne à chercher ta face, que je réapprenne l'humilité, à me plonger dans ta parole. Mes frères et sœurs, combien c'est important. Et le dernier exemple, c'est Jaïrus. Vous connaissez le chef de la synagogue, hein? On en a parlé. C'est ici qu'on en a parlé, oui, il n'y a pas longtemps. Ouais. Bon, vous connaissez cette affaire? Quelle affaire? Quelle affaire? Il va vers ça, il va vers Jésus, sa fille est malade, sur le point de mourir, et alors que Jésus s'attarde sur une situation, voilà, paf, il apprend de la part de ses amis que sa fille est morte, n'importune pas le maître, ta fille est morte. Je ne sais pas ce qu'il a dû ressentir, quelle crainte cet homme a dû avoir, mais Jésus lui dit, écoute, ne crains pas, crois seulement. Vous savez, si Jésus a dit à cet homme, ne crains pas, c'est que la crainte avait dû envahir son cœur. Vous comprenez bien que Jésus ne disait pas quelque chose qui n'était pas à propos. Ce soir, ça peut être la parole que Dieu veut donner à quelqu'un. Ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Peut-être que vos enfants sont morts spirituellement. Est-ce que vous avez des enfants qui ne sont pas convertis? Est-ce que vous avez des conjoints qui ne sont pas convertis? Tout à l'heure, on a prié pour Madame Puette, pour Monsieur Pauvert et d'autres. Est-ce que vos enfants ne sont pas convertis? Est-ce que votre mari n'est pas converti ou votre épouse? Eh bien, écoutez bien la parole du Seigneur. Ne crains pas. Crois seulement. Écoutez bien. Quelqu'un de léger dira, mais on l'a entendu 100 fois, ça ne craint pas quoi seulement. Ce sont les gens qui ne sont pas spirituels qui écoutent ça. Quelqu'un qui est spirituel, même si c'est la 150e fois que vous entendez cette parole, vous savez quand c'est le Saint-Esprit qui vous l'a dit. Et si ce soir, Dieu vous dit, simplement, sérieusement, joyeusement, ne crains pas, crois seulement. Tes enfants, ils sont morts. Ton conjoint n'est pas converti. Ne crains pas. Crois seulement. Oui, on doit réapprendre l'humilité. Oui, on doit réapprendre l'obéissance. Oui, on doit réapprendre la persévérance. Mais il y a peut-être à réapprendre à bannir la crainte. Réapprendre à ne plus avoir peur. Si le Seigneur vous le dit, le Seigneur, il n'a pas besoin de longs discours pour vous bénir. Vous savez, il n'a pas dit à Jaïrus, écoute, je vais t'expliquer comment ça va se passer. Assieds-toi, tu vas voir. Je vais te montrer, moi, ce que je suis capable de faire. Le Seigneur, il n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Le Saint-Esprit, par sa parole, vous donne une parole, un mot, et ça vous suffit. Ne crains pas. Vous qui avez besoin d'un travail, ne craignez pas. Vous qui avez perdu la persévérance, réapprenez la persévérance. Demandez-la au Seigneur. On est là pour demander. On a été là pour donner. Moi, je me suis réjoui de voir qu'on a prié. J'ai proposé des sujets de prière et vous avez obéi joyeusement. C'était bien. Mais maintenant, demandez pour vous. Vous entendez, mes frères et sœurs? Demandez. Naaman, cet homme distingué, avait besoin de réapprendre à puiser la grâce de Dieu en s'humiliant. Bartimée, en criant à Dieu. Je répète, ce n'est pas les décibels, mais peut-être que vous devez réapprendre à vous enfermer de chez vous, claque, dans votre chambre, et à vous mettre à genoux et dire, Seigneur, je crois que tu peux t'arrêter dans ma vie. Je veux réapprendre. Et tu vas me bénir. De toute façon, si vous le faites, vous le savez, c'est lui qui bénit. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. La syrophénicienne, même si ça s'est passé quand même vite fait, elle avait besoin d'apprendre la persévérance. Et si vous avez besoin de vaincre la crainte, peut-être que vous n'osez pas prier. Pourquoi? Pourquoi vous n'osez pas prier? Qui vous jugerait? Qui vous jugerait? Dieu vous jugerait dans votre prière? Je me souviens, moi, que c'était à Grouillet, il y avait un gars qui s'était converti. Alors, vous savez, quand on a 20 ans de conversion, on prie, on a des mots bibliques, et je te remercie, Seigneur, pour ta sainteté, et pour la façon dont tu nous as accordé la rédemption, etc. Bon, on peut utiliser des mots. Et je me souviens de ce gars qui venait juste de se convertir, c'était un ouvrier, et le soir, il est arrivé à l'église, Seigneur, je te loue, hein. Mais merci, c'est vachement bien, hein. Pour ce gars qui m'a amené une bière, je crevais de soif, Seigneur. Mais merci pour ce type qui m'a amené une bière. Vraiment, c'est super. Moi, j'ai dit amen. Je dis c'est bien. Est-ce qu'il a bien fait? Bon, je pense que depuis, il a dû changer son vocabulaire un peu. Mais qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Vous auriez dit, mais tu te rends compte? Franchement, est-ce que c'était bien? Moi, je crois qu'on doit prier. Bien sûr, si quelqu'un est vulgaire, ne vous inquiétez pas, on se chargera de vous le dire. Mais vous ne croyez pas que dans la maison du Seigneur, Dieu va entendre toutes les prières, hein? Et qu'on doit demander à Dieu. Si quelqu'un manque de quelque chose, demandez-le. Dites pas, Dieu le sait, il va me le donner. Non, il y a des lois spirituelles. Demandez et vous recevrez.